MCI TV vous présente l'émission Teach avec Atoms. Un temps d'enseignement et d'étude de la parole de Dieu afin de faire de vous des disciples et vous aider à grandir dans votre foi.
Bienvenue sur Teach, votre nouvelle émission d'enseignement et de maturité spirituelle. Ce programme a été conçu pour vous permettre de devenir des véritables disciples de Jésus-Christ. Vous savez, vous serez capable à travers cette émission de connaître la parole de Dieu, vivre la parole de Dieu, imiter Christ à travers la parole de Dieu, car un disciple accompli est comme son maître. On a commencé depuis le début de cette semaine à apprendre sur la puissance de la parole de Dieu. On a commencé d'abord à se dire c'est quoi une parole dans la Bible quand on dit parole. Après avoir établi ces bases, on a commencé à étudier les attributs de la parole de Dieu. Aujourd'hui, j'étais tellement pressé à dire aujourd'hui, vous avez senti, hein? Aujourd'hui, là, tout de suite, je suis très excité parce que on va apprendre des mots en grec et tout ça là, ça va être vraiment intéressant. Il y a deux mots en grec qui sont traduits par parole en français. Et j'aimerais qu'on les exploite dans les minutes qui vont suivre et vous allez voir combien ça intéresse. Alors, let's teach. Grandissons ensemble. Lorsque la Bible est traduite, surtout le Nouveau Testament, d'ailleurs le Nouveau Testament, est traduit de la langue grecque. À l'époque, le grec qui ont conquis une grande partie de l'Europe et de cette grande partie qu'on appelait à l'époque l'Asie, c'était pas l'Asie d'aujourd'hui, mais ça s'appelait aussi l'Asie. Les Grecs ayant conquis cette partie, y ont imposé naturellement leur langue, le grec. Et il y avait bien sûr les Grecs académiques, les Grecs aussi, je veux dire les Grecs de la bourgeoisie. Mais il y avait aussi ce grec qui se parlait dans la rue, qui était très facile à apprendre, que ces étrangers, n'est pas habitués à cette langue, pouvaient aisément parler. C'était donc le grec que tout le monde parlait pour, vous savez, vendre et acheter. Et ce grec-là, ça s'appelait le koiné. Ça me rappelle un peu la fois où ma femme et moi, nous sommes allés en Chine. Elle devait aller faire des achats. Elle est partie. J'ai vu qu'elle a pris du temps. Elle expliquait des choses. Et puis, après, quand elle revient, j'ai dit, mais depuis quand tu parles mandarin? Elle m'a dit, ouais, mais j'ai réussi à acheter. On s'est bien compris. J'ai dit, vous vous êtes compris comment? Elle dit, c'est simple, on n'a pas besoin de parler la même langue. On prend la calculette, on met au milieu de nous tous. Moi, je tape un prix, les chiffres. Et puis lui, s'il est d'accord, il accepte. S'il n'est pas d'accord, il dit non. Il tape un autre prix. Et moi, je dis 10. Et on a passé jusqu'à yes. En utilisant la calculette. La langue qui était parlée à l'époque pour le commerce, c'était le koiné, le grec koiné, la langue, le grec courant que tout le monde utilisait. Et c'est de là que les auteurs bibliques ont écrit parce que le grec n'était pas leur langue maternelle. C'était une langue qu'ils ont appris. Et donc, ils communiquent à travers cette langue parce que la grande partie des gens à cette époque comprennent la langue appelée le grec, le koiné. Du coup, dans le Nouveau Testament, vous trouvez Jésus parler grec, vous trouvez les apôtres écrire en grec. Et lorsque les mots sont traduits dans notre langue, le français, on utilise le contexte pour pouvoir faire paraître l'idée. Mais dans la traduction de foi, il y a un mot qui existe, mais dans une autre langue, pour dire la même chose, on n'utilise pas le mot. C'est ce qui fait que quelquefois, vous entendrez un prédicateur vous dire, dans les textes originaux, ici, il y a le mot tel, parce que dans votre langue, ce mot-là n'apparaît pas. Pourquoi? Parce que l'expression ne dit pas la même chose. Vous savez, on a des expressions. Quelqu'un dit, je donne ma langue au chat. Chez moi, dans ma langue, à moi, on ne donne pas sa langue au chat. Là, il y a une autre expression pour dire ça. Vous voyez, on dit plutôt, l'expression dit, je donne plutôt ma tête à couper dans un autre sens. Alors, un mot peut paraître ou pas quand on est en train de traduire, mais l'idée est là. Nous allons faire la chasse à ces deux mots. Lorsqu'on dit parole très souvent dans la Bible, on a tendance à dire ces deux mots en grec dans le Nouveau Testament. Le premier mot, c'est le mot logos. Et le deuxième mot, c'est le mot « rhéma ». Logos, c'est simplement on va le prendre ici, ce mot-là, logos, comme la parole de Dieu, comme base de sa pensée et de sa volonté pour nous. Le mot logos est traduit par parole, mais c'est aussi la pensée pour logique, mais c'est aussi la pensée pour l'élément de base d'une réflexion ou d'une pensée ou d'une phrase. Vous vous souvenez, moi, mon professeur de français n'arrêtait pas de nous répéter ça. Phrase. La phrase est faite. Sujet, verbe, complément. Sujet, verbe, complément. Sujet, base et complément. C'est pour cette raison, dans certaines traductions, par exemple, vous voyez le texte de Jean, chapitre 1, verset 1, là où il est écrit « Au commencement était la parole ». Certaines traductions, vous verrez que c'est écrit « Au commencement était le Verbe » et « Le Verbe était avec Dieu ». Pourquoi on dit les mots « Verbe » Parce que le Verbe est la base d'une phrase. C'est à travers le Verbe que la phrase prend sens. Et c'est ça l'idée du mot « logos » ici. L'élément central de la pensée qui donne un sens à cette idée-là. S'il y a une volonté, elle s'exprime à travers ce verbe et c'est ce qui donne un sens à cela. Et quand on étudie la Bible, et tout à l'heure, on va utiliser le mot « logos » dans l'idée de parler de la pensée de Dieu, la base de sa pensée, qui se retrouve être écrite, qui se retrouve être déjà exprimée et disponible. Mais il y a l'autre mot « rhéma ». Ces deux mots, lorsque vous lisez la Bible, viennent de fois de façon interchangeable. Mais ils sont juste différents. Quand on dit « rhéma » en grec, c'est pour dire une parole prononcée actuellement. C'est donc « rhéma » est la parole qui sort actuellement de la bouche de Dieu. « Rhéma » a l'idée de « maintenant, tout de suite ». Ce qui se dit là, qui sort de la bouche. Et très souvent, vous verrez le mot « sortir de la bouche » qui s'attache à ce mot-là, « parole ». Donc, c'est ce que je dis tout de suite là, maintenant, à ce moment. Pendant qu'un « logos » peut être exprimé, bien avant, écrit, peut être dans un document, parce que c'est la base de ma pensée. Mais le rhéma, c'est ce que je répète maintenant, tout de suite. Tout de suite, au moment où je parle. Alors, donc, vous aurez tendance ici à comprendre que l'un voudra dire parole de Dieu dans l'idée de Écriture, c'est comme ça qu'on va les utiliser. Parole de Dieu, logos, pour dire la pensée de Dieu déjà révélée dans la parole de Dieu, dans les Écritures. Et l'autre voudra dire la révélation de Dieu, le fait que Dieu nous parle maintenant. Alors, le fait que Dieu nous parle maintenant et le fait que Dieu ait déjà parlé et que c'est dans sa parole, dans ses écrits, quelle en est la relation? Premièrement, vous devez savoir que logos et rhéma viennent de la même source. Que ce soit la parole écrite, que ce soit la révélation que Dieu peut te donner maintenant, c'est censé venir du même Dieu, de la même source. Ésaïe 55, le verset 11 le dit. Ésaïe 55, le verset 11 le dit. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Là, vous voyez, on est dans quelle idée? Dans l'idée de rhéma. Bien sûr, ça, c'est en hébreu. On ne voyait pas le mot rhéma. Mais qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Hébreu 1, 2. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lesquelles il a aussi créé le monde. Dieu a parlé une parole qui sort de sa bouche, qui ne lui revient jamais sans avoir accompli son dessein. Dieu a parlé par Christ, Jésus, l'Évangile, qui devient la base de notre foi. Donc, une révélation, quel que soit, un songe ou quoi que ce soit, si tu viens me dire « Dieu t'a parlé », il faudrait que ce soit le Dieu de la Bible. Parce que la Bible est la révélation que Dieu te donnerait maintenant. Le logos et le rhéma ont même source. Vous devez aussi savoir une deuxième chose dans la relation de ces deux verbes, c'est que tout rhéma vient du logos. Toute révélation, toute parole dite à propos aujourd'hui, disant que c'est la parole de Dieu qui nous a parlé, ça vient de ce que Dieu a déjà dit dans les Saintes Écritures. Galates chapitre 1, verset 8 à 9 dit. Galates chapitre 1, verset 8 à 9. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Paul dit, La parole est déjà prêchée, la vérité est déjà là. Même si vous voyez un ange vous apparaître, même si vous voyez une dérévélation, je ne sais pas moi quoi, sachez-le bien que ce qui est écrit, ce qui a déjà été prêché, l'évangile qui a été donné, c'est cela la vérité. Il les prévient parce que le diable peut bien sûr se transformer en ange de lumière. Aucune révélation, toute révélation en fait, tout réma vient du Logos. Aujourd'hui, même si je devrais te donner une parole si précise qui concerne ta vie à toi seulement, je te dis, Dieu m'a parlé, voici la parole du Seigneur. Cette parole-là, si nous rentrons dans la Bible, nous allons nous rendre compte qu'elle est vraie à travers les Écritures, qu'elle y est d'une certaine manière. Troisièmement, troisième relation entre ces deux mots, le troisième, le dernier point que j'aimerais toucher sur la relation entre le mot réma et logos, c'est qu'aucun réma n'est contraire au logos. Je ne fais que renforcer la même idée, en fait. Aucun réma n'est contraire au logos. Jean chapitre 5, versets 46 à 47. Jean 5, 46 à 47. Car si vous croyez Moïse, vous me croirez aussi, parce qu'il a écrit à mon sujet. Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croirez-vous à mes paroles? Il dit, si vous croyez Moïse, vous dites que vous croyez à Moïse, mais si vous croyez Moïse, vous aurez dû croire à moi aussi, parce que c'est de moi qu'il a écrit. Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, comment vous croirez à mes paroles? Là, littéralement, Jésus utilise le mot réma. Il dit, si vous ne croyez pas au gramma de Moïse, comment allez-vous croire à mes réma? Là, le mot, ce n'est pas logos, le mot gramma peut dire des écrits, les écrits de Moïse. Si vous ne croyez pas à ce que Moïse a écrit, comment pouvez-vous croire à ce que moi je suis en train de vous dire maintenant? Aucun réma n'est contraire au logos. Moïse l'a écrit, même Christ ne vient pas pour l'échanger. Il dit, ce que je dis est authentifié parce qu'il est écrit. C'est parce que Moïse avait déjà écrit. Si vous croyez à ces choses, vous êtes censé croire à ce que je suis en train de dire aujourd'hui. Parce que je ne contredis pas ce qui est écrit. Et lui-même le disait tout haut, je ne suis pas venu abolir, je suis venu accomplir. J'ai pensé qu'aujourd'hui, on pouvait ensemble étudier quelques particularités du réma. Puisque pendant cette semaine, on est en train de parler de la puissance de la parole de Dieu. Je voulais relever ici les éléments de puissance de la parole de Dieu prononcée maintenant, dite à propos. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que le logos n'est pas une mauvaise chose. Des fois, quand on parle de logos et de réma, les gens finissent par avoir l'impression que logos, c'est rien, c'est réma qui est grand. Non, le réma, c'est juste le fait de répéter le logos maintenant. C'est juste actualiser la parole. C'est prendre ma Bible et dire « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». En disant « mon berger », je commence à parler du berger de Atom Sumbuma que je suis. Je ne dis plus « l'Éternel est berger de David », je dis « l'Éternel est mon berger ». J'ai actualisé cela. Et cette parole devient vérité pour moi, comme si Dieu la sortait de sa bouche aujourd'hui. Parce que c'est du logos que vient le réma. Et quelques autres paroles d'encouragement que le Seigneur pourrait me donner dans une situation pour me montrer qu'il est mon berger, ne fait que confirmer le fait qu'il est réellement le berger dans les Saintes Écritures. Mais je veux quand même vous dire un certain nombre de choses qui apparaissent si clairement derrière le mot « réma » quand vous en faites l'étude dans la Bible. Vous serez étonné, vous ne verrez pas toujours le mot « parole », mais je vous préciserai qu'à cet endroit-là en grec, il y a le mot « réma ». Premièrement, rien n'est impossible au réma. Frère, quand la parole de Dieu est prononcée, quand Dieu vous donne une parole, elle sort avec une telle puissance que rien n'est impossible à la parole. Dans Luc chapitre 1, versets 37 à 38, un événement exceptionnel a lieu. L'ange vient visiter Marie et lui annonce la naissance de Jésus. Luc chapitre 1, 37 à 38. Rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. L'ange lui a dit, rien n'est impossible à Dieu. Ça, c'est le français. Je vous avais dit au début, quelquefois dans la traduction, on ne retrouve pas de mots. C'est le français qui dit, qui a cette expression qui veut dire « rien n'est impossible ». Mais dans le grec, les mots « réma » à l'intérieur. Littéralement, on traduirait ceci, ça c'est la version 1910 de Louis Segon, mais on traduirait ceci « aucun réma de Dieu n'est vide de puissance ». Dit « aucune parole de Dieu ne peut être dite sans rien faire ». C'est ce que ça veut dire. Aucune des paroles de Dieu ne peut être dite sans rien faire. C'est pourquoi Marie dit « qu'il me soit fait selon ton Réma, selon ta parole. Quand Dieu te donne une parole, il actualise sa parole qu'il a dit, mais il te la donne à toi aujourd'hui, maintenant. Tu dois savoir, rien n'est impossible à la parole de Dieu. Quelle que soit cette chose difficile qu'il t'a dite, rien n'est impossible à la parole de Dieu. Deuxièmement, le réma finit toujours par s'accomplir. Si Dieu t'a donné une parole, elle est si puissante que rien ne l'empêchera de s'accomplir. Ça finira toujours par s'accomplir. C'est le cas d'un homme qui attendait depuis longtemps, qui attendait que Jésus arrive. Et sa mort était conditionnée. Le monsieur voulait bien mourir, mais sa mort était conditionnée. Luc chapitre 2, versets 25 à 31. Luc 2, 25 à 31. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit « Maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ton réma, car mes yeux ont vu ton salut, celui que tu as préparé devant tout le peuple. » Il a attendu, mais ça finit par s'accomplir. Je ne sais pas quelle est cette parole que Dieu t'a donnée, que cette promesse, cette vérité à laquelle tu t'accroches. Je voudrais te dire qu'autour de toi, tout peut te sembler être différent, comme si les choses n'évoluaient pas. Mais le réma finit toujours par s'accomplir. Demandez à Siméon, c'est le jour où il touche le bébé. Tout le monde voit juste un bébé qu'un monsieur a touché. Mais quand, si on pouvait voir le visage de Siméon, on sentirait, wow, cet homme est en face de la parole faite chair pour lui. Le réma s'est accompli. Je prie pour vous, afin que ces rémas de Dieu dans vos vies finissent par s'accomplir. Troisièmement, le réma garde toujours un mystère. Quand la parole de Dieu est prononcée, quand Dieu sort une parole de sa bouche, même quand on croit avoir tout compris, il y a toujours un mystère. Parce que personne ne peut, au moment où la parole est sortie, dessiner exactement les scénarios de son accomplissement. Impossible. Tu ne peux pas dire, Dieu m'a dit ça, donc ça se fera comme ça, à 12 heures, à l'entrée, à gauche, quand je vais venir, la personne viendra. Non, non, non. On sait certaines choses sur certaines choses que Dieu nous a dit. Mais il y a toujours une partie qu'on n'a pas compris, qu'on n'a pas saisie à 100%. Dieu sait que quand il sort sa parole, de fois, elle est remplie de différents sens. Elle contient un mystère. Et le réma contient toujours ces mystères-là. Luc chapitre 2, versets 48 à 50. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi tu agis de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchons avec angoisse. » Il leur dit, « Pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Le mot là, « ils ne comprirent pas » son réma. Jésus a parlé, il a dit une chose à plusieurs séances. Mais les parents n'ont pas compris. « Ah, les enfants aussi, hein. Viens, on part. Tu sais, quelles affaires des papas que tu t'occupais? Moi, je suis ici. » Ils n'ont pas compris de quel père il parlait, de qui il était en train de parler. Le mystère restait là. Je me dis toujours, à quel moment Marie a eu besoin de raconter cette histoire aux disciples pour qu'ils puissent être capables d'en parler aussi comme ça à Luc? Je crois que c'est après qu'elle ait compris en se disant, oh, ouais, quand il parle du père, c'est pour ça quand il avait 12 ans, il nous parlait de cette affaire du père. Luc chapitre 9, verset 45 plutôt. Luc 9, 45. Mais les disciples ne comprenaient pas cette parabole. Elle était voilée pour eux, afin qu'ils n'en eussent pas le sens. Et ils craignaient de l'interroger à ce sujet. Les disciples ne comprenaient pas cette parole. Les disciples ne comprenaient pas ce réma. Jésus a fini de parler, il a donné une parabole, il a dit une parole, les disciples sont là en train de se regarder. Toi, tu as compris ce que ça veut dire? Non, non, non. Bon, il veut dire quoi au fond? Le réma garde toujours un soupçon de mystère à l'intérieur. Même celui qui le prononce ne connaît pas tout. Prenons un autre exemple, Luc chapitre 18, versets 31 à 34. Jésus prit les 12 après auprès de lui et leur dit, « Voici, nous montons à Jérusalem. » et tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme s'accomplira. Car il sera livré aux païens. On se moquera de lui. On l'outragera. On crachera sur lui. Et après l'avoir battu de verge, on le fera mourir. Et le troisième jour, il ressuscitera. Mais il ne comprit rien à cela. C'était pour eux un langage caché, des paroles dont ils ne connaissaient pas le sens, des rémas dont ils ne connaissaient pas le sens. Le réma de Dieu, quand il vient, il y a toujours un mystère derrière. Troisièmement, le réma est un argument des puissantes sagesses. Souvenez-vous, cette semaine, on est en train juste de célébrer la puissance de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, quand elle était donnée à propos, quand elle t'a inspiré maintenant pour dire maintenant les choses que Dieu dit, quand tu sors ça, ça sort comme une arme puissante pendant un argument, pendant un débat. Quand tu ne sais quoi dire, dis ce que Dieu t'a mis à cœur. Ici, dans Luc chapitre 10, versets 23 à 26, la Bible dit « Jésus, apercevant leur ruse, leur répondit. « Montre-moi un denier. De qui porte-t-il l'effigie et l'inscription ?»« Des César, » répondirent-ils. Alors, il leur dit, « Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Il ne peut rien reprendre dans ses rémas devant le peuple. » Mais, étonnés de sa réponse, ils gardèrent le silence. Wow! Jésus a sorti des paroles d'une sagesse incroyable et puissante. Ils sont venus le tenter en disant, est-ce qu'on est obligé de payer l'impôt ou pas? Tu sais, ce n'est pas n'importe quel sujet. Hein. Ce sujet-là, tu l'abordes. C'est pas aujourd'hui ça, commencer les politiquement corrects ou incorrects. Le fait qu'on ait les yeux sur toute personne qui a une certaine notoriété sur des sujets qui concernent la politique et l'État. Chaque fois que quelqu'un s'élève et draine de foule et qu'il doit parler d'un certain message, que tout le monde le suit, le monde a toujours tendance à le tenter sur des sujets d'actualité et de position politique. Et on vient dire à Jésus, qu'est-ce que tu penses du sujet de l'impôt? On paye ou pas? Il fallait qu'il leur sorte une parole. Vous savez, Jésus lui-même l'a dit, ne craignez pas quand vous serez devant des tribunaux. Ne vous posez pas la question, qu'est-ce que vous direz? Ce que vous direz vous sera communiqué à l'instant. Ça, à l'instant-là, c'est ça le réma. Et à ce moment-là, Jésus a un réma. Il dit, quelqu'un peut me donner un denier ici? On le lui donne, il dit, quel est le visage qu'il y a dessus? Tout le monde crie, de César. Écoutez sa réponse. Rendez à César ce qui est à César. Et à Dieu ce qui est à Dieu. Il a fini. Et tout le monde s'est dit, wow, fallait y penser, le monsieur, waouh, il est trop bon, quelle sagesse. Je prie Dieu qu'il mette toujours dans votre bouche la sagesse nécessaire, même dans les cas les plus difficiles. Et quand vous avez à ouvrir votre bouche, que vous sortiez le réma de l'Éternel. Cinquièmement, le réma caractérise un vrai envoyé de Dieu. Dans Jean chapitre 3, verset 33 à 34, il est dit ce qui suit. Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Jésus parle de lui-même, mais il dit que celui que Dieu a envoyé, il parle des paroles de Dieu. Comment on reconnaît que cette personne est un véritable envoyé de Dieu? Il donne des rémas. La pensée de Dieu pour maintenant et tout de suite. J'ai entendu beaucoup de gens raconter beaucoup de vieilles expériences. Si vous voulez reconnaître quelqu'un qui n'a plus de temps dans la présence de Dieu, il parlera beaucoup des choses qui lui sont arrivées très loin dans le temps. Il n'a plus de témoignages actuels. Il dit beaucoup de « quand on était, lorsque nous fûmes ». Aujourd'hui, il n'a rien à dire parce qu'il n'a plus le temps. Il passe plus le temps dans la présence de Dieu. Et quand vous voulez reconnaître un envoyé de Dieu, quand il sort une parole de Dieu, on dit comme, parole pas d'un homme. Dieu a parlé dans sa bouche. C'est Dieu qui a envoyé cet homme. Sixièmement, le réma produit la foi. Le réma produit la foi. Je vais vous lire encore Romains 10, 17, je l'ai tellement lu. Romains 10, 17, ainsi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient du réma de Christ. C'est ça le mot là-bas. La parole de Christ veut dire la prédication, le message qu'on t'annonce tout de suite, actuellement, ce que l'on dit de Christ. maintenant. Frère, je ne sais pas si vous avez un réma. Parlons un peu de cette campagne dans laquelle nous sommes avec MCI. Est-ce que vous avez reçu un réma de Dieu à ce sujet? Une parole de Dieu qui, dans votre cœur, vous dit « Dieu m'a convaincu de donner ». Généralement, quand Dieu met un réma dans notre cœur, il est tout aussi simple que ça. Mais je prie que vous puissiez contribuer à cette campagne avec une parole, un réma de Dieu. Et je prie que cette parole soit ce qui va produire la foi dans votre cœur. Dieu peut vous donner lui-même des raisons. Il vous dit, pour ce pourquoi tu me demandes, ce pourquoi tu pries, pour le sujet que tu as, voilà une opportunité. Commence à contribuer dans cette campagne. C'est ça ton réma. C'est ta parole, c'est ta petite parole qui va tout changer. Cette campagne peut être aussi simple comme vous le voyez, mais peut être source de beaucoup de bénédictions pour plusieurs. C'est peut-être pour quelqu'un exactement ce qu'il lui fallait pour qu'il pose ce pas de foi. À MCI, on est conscient qu'on est en train de poser un grand pas de foi. On veut le poser avec des hommes de foi. Nous, on a reçu ce réma. Est-ce que vous voulez vous joindre à nous en saisissant cette parole? 20 000 partenaires mensuels. Chaque mois, 35 000 euros. Vous contribuez ensemble avec nous et on fait ce pas de foi parce que Dieu ne manque jamais. Prenez cet engagement aujourd'hui déjà à travers ce coordonné et peut-être que c'est le réma dont vous avez besoin. Je me souviens une fois, une dame est venue me voir en me disant qu'elle avait des problèmes de conception. Qu'elle n'arrivait pas à accoucher. On a pris le temps de prier, on a prié ensemble. Et pendant que je priais, le Seigneur a mis une parole pour moi. Je suis venu lui dire, écoute, voilà, Dieu m'a demandé que tu fasses telle chose. Ça n'avait rien à voir avec concevoir. C'était servir Dieu à l'église. Mais Dieu veut que tu le serves dans telle chose en particulier. Elle dit, oui, j'ai commencé à y penser à un moment, mais c'est passé comme ça. Je lui ai dit, je ne sais pas comment t'expliquer quel est le lien ça a à voir avec la fécondité. Elle a commencé à servir, boum, le mois qui a suivi. Elle a eu son bébé. Elle est mère d'un joli garçon aujourd'hui. Le réma produit la foi. Juste une pensée que Dieu a donnée clairement. Ça, c'est suffisant pour produire la foi. Peut-être que cette campagne, c'est votre réma. Attachez-vous à ça et vous verrez que rien n'est impossible à celui qui croit. En finissant aujourd'hui, parlons du fait que le réma est une arme spirituelle. Éphésiens chapitre 6, verset 17. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Le mot parole de Dieu là-bas, c'est le réma de Dieu. Et Paul est en train de dire dans le livre des Éphésiens, il montre les armes spirituelles. Et il dit que notre seule arme offensive, c'est l'épée de l'esprit. L'épée que donne l'esprit. Et cette épée-là, qu'est-ce que l'esprit te donne comme épée? Un réma de Dieu. Dans le combat spirituel, ce n'est pas une question de faire juste des répétitions. On ne se bat pas en faisant des répétitions avec l'adversaire. On attend jusqu'à ce que Dieu nous dise « frappe à gauche ». Une parole de Dieu qui dit « lève-toi à minuit ». Une parole de Dieu qui dit « c'est le moment de prier ». Une parole de Dieu qui dit « prends plutôt tout ce que tu as, donne aux pauvres ». Mais lorsque Dieu te donne la stratégie secrète pour gagner la bataille, c'est à travers un réma qui te le donne. Je crois que vous avez pris plaisir à écouter ces mots en grec, n'est-ce pas? Logos, réma. Et j'espère que ça nous a aidé tous à comprendre toute cette dimension de la parole de Dieu. Parole de Dieu actualisée maintenant pour nous. Autant de puissance elle a. Je vous donne rendez-vous demain déjà pour que nous puissions continuer le grand thème qu'on a commencé cette semaine autour de la puissance de la parole de Dieu. Pour l'instant, je vous dis au revoir. Let's teach. Grandissons ensemble.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des partenaires de MCI TV. Retrouvez toutes les émissions de Teach sur emcitv.com.